Au sommaire du monde aujourd'hui, ce soir sur VOA Afrique. Procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Le général Diène Déré nie avoir été le cerveau. Les États-Unis ont fermé leur ambassade à Kinshasa aujourd'hui suite à des menaces d'attaques terroristes. Au moins 22 personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes en Somalie. Tension en mer Noire, l'armée russe a capturé trois navires ukrainiens. Tous les grands points de l'actualité.
Voilà, donc il est 18h30, temps universel sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia au micro pour ce journal que nous démarrons par les titres. En République démocratique du Congo, le gouvernement qualifie de psychose inutile l'alerte de l'ambassade américaine sur une menace terroriste. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diène Déré, devant la barre, nie être le cerveau du putsch manqué de septembre 2015. Deux attentats font 22 morts en Somalie. Un chef religieux soufi est parmi les victimes. La Russie défend les actions de sa marine après les incidents en mer avec des navires ukrainiens. Et en partie magazine, retour sur les réactions à N'Djamena sur la visite du président tchadien Idriss Déby en Israël, une première depuis plus de 40 ans.
Si c'est pour aller chercher des armes, pour mater une partie de son propre peuple, je pense que ça ne vaut pas la peine.
Et ne ratez pas donc les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais on démarre par le journal. Bienvenue à tous. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a été fermée ce lundi en raison d'informations dites crédibles et précises sur une possible menace terroriste contre ses installations. Le gouvernement congolais qualifie cette alerte de psychose inutile. Mais la police a érigé des barrières dimanche soir dans la capitale de la RDC et renforcé la sécurité autour du bâtiment de l'ambassade des États-Unis. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a reçu des informations crédibles et précises sur une possible menace terroriste contre les installations du gouvernement américain à Kinshasa, a informé à ses ressortissants en RDC la représentation diplomatique américaine. Face à ces menaces, elle a signalé que ses bureaux seraient fermés au public ce lundi 26 novembre 2018. La représentation diplomatique n'a donné aucune information sur ces menaces ni sur les installations du gouvernement américain visées. Ce lundi matin, une Jeep de la Légion nationale d'intervention de la police était positionnée à l'entrée du bâtiment de l'ambassade. Les policiers en lunettes noires, armes en bandoulière, étaient très remarquables. Le même dispositif était déployé au centre culturel américain. Intervenant peu avant midi sur Top Congo FM, le colonel Piro Monamputu, porte-parole de la police, a justifié les barrières érigées dans le coin stratégique de Kinshasa par cette menace terroriste et rassuré la population que la situation est désormais sous contrôle. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, la CENI, la commission électorale, n'a pas invité l'Union européenne et la Fondation Carter à envoyer des observateurs pour superviser les élections du 23 décembre. La Fondation Carter a un problème avec le ministère congolais des Affaires étrangères. Son rapport sur les élections de 2011 a failli provoquer la guerre dans le pays, explique un responsable de la CENI. Par contre, la CENI a invité des observateurs de l'Union africaine, de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, et de l'Organisation internationale de la francophonie. République centrafricaine, l'archevêque de Bangui, Dieudonné Zapalenga, de retour d'Alindao dans le centre du pays, a rapporté ce lundi des témoignages sur des massacres dans cette ville où au moins 60 personnes ont été tuées dans des combats mi-novembre. Je suis allé voir mes frères qui sont morts à Alindao où on les a brûlés comme des bêtes, a déclaré le cardinal Zapalenga lors d'une conférence de presse à Bangui, tenue avec d'autres dignitaires religieux, chrétiens et musulmans. Nestor Désiré Nongo Aziagbia, évêque de Bossangoa, dans l'ouest du pays, a lui affirmé qu'on est en train de pousser la Centrafrique vers une guerre de religion. Le procès du coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso se poursuit. L'un des présumés auteurs, le général Gilbert Diène Déré, était à la barre ce lundi. Il a plaidé non coupable. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent aujourd'hui coup de force, a déclaré ce lundi matin le général Gilbert Diendéré. L'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré pendant plus de deux décennies ne reconnaît pas les faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires, d'incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire et trahison qui lui sont reprochés. Le coup d'état de septembre 2015, perpétré par des éléments de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle en pleine transition, a porté le général à la tête du CND, Conseil national pour la démocratie, l'organe qui devait gérer le putsch. Mais c'est tout le contraire, que dit le général Diendéré. Je me suis vu obligé de me porter au devant des choses, bien que n'ayant pas moi-même été associé à la préparation. Fait-il savoir à la barre, avec assurance, habillé dans sa traditionnelle tenue militaire terre du Burkina. Le général Diendéré a chargé l'ancien premier ministre Isaac Zida en exil au Canada. Pour lui, Zida aura contribué à gâcher le climat au sein du RSP et des autres corps de l'armée. En un mot, ce coup d'état est la résultante d'une transition mal gérée au Burkina Faso. Le putsch a fait une quinzaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Togo, la principale coalition de l'opposition a décidé de ne présenter de candidats aux élections législatives du 20 décembre. Elle appelle à de nouvelles manifestations pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. La Cour constitutionnelle a validé les listes de 12 partis et 17 autres listes provenant des candidats indépendants. La Cour n'a validé aucune liste des 14 partis membres de la coalition à l'origine des manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un an. La campagne électorale doit démarrer le 4 décembre. Au moins 22 personnes ont été tuées ce lundi dans deux attaques distinctes en Somalie. Les Chebabs ont aussitôt revendiqué l'un des deux attentats. Le point avec Nani Talani.
La première attaque a eu lieu tôt ce matin dans la ville de Galkayo, dans le centre de la Somalie. Des combattants Al-Shabaab ont attaqué le complexe d'un chef religieux controversé, le soufi Cheikh Abdewali Ali Elmi. Ils l'ont tué avec au moins 14 autres personnes. Les habitants de la ville ont déclaré s'être réveillés à la suite d'explosions suivies de tirs nourris. Une voiture piégée avait percuté le portail du complexe, puis les assaillants l'ont pris d'assaut. Les forces de sécurité ont lancé une contre-offensive, faisant deux morts parmi les attaquants. Un troisième a été arrêté. Le groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque contre cet imam soufi qu'il accusait de blasphème. Par ailleurs, 8 personnes ont été tuées dans une seconde attaque à la voiture piégée à Mogadiscio. L'explosion s'est produite sur une route très fréquentée au sud de la capitale. Cette dernière attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les Shababs sont pointés du doigt.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement mexicain a annoncé ce lundi avoir expulsé 98 migrants d'Amérique centrale qui ont tenté en vain dimanche soir d'entrer de force aux États-Unis. Hier, des centaines de migrants ont tenté un passage en force à la frontière qui s'est soldé par 42 arrestations côté américain. Cet incident a poussé le président Donald Trump à menacer de fermer de façon permanente la frontière terrestre entre le Mexique et les États-Unis. Toujours aux États-Unis, le procès pour meurtre d'un néo-nazi accusé d'avoir intentionnellement percuté des manifestants antiracistes à Charlottesville en Virginie s'est ouvert ce lundi. James Field, 21 ans, est accusé d'avoir causé la mort d'une manifestante de 32 ans en fonçant dans la foule avec son véhicule en août 2017. Tension entre l'Ukraine et la Russie. Les gardes frontières russes qui ont arraisonné hier soir 3 navires ukrainiens dans le détroit de Kerch ont agi en stricte conformité avec le droit international. C'est ce que déclare le porte-parole du Kremlin, Bagasikoura.
Pour Dmitri Peskov, il s'agit d'une intrusion de navires de guerre étrangers dans les eaux territoriales de la Fédération de Russie à un journaliste ukrainien qui lui demandait si c'était le président russe qui avait pris la décision de cette attaque. Dmitri Peskov a répondu qu'il n'appellerait pas cela une attaque, mais plutôt une action nécessaire à la préservation des frontières de la Russie. Dimanche, les gardes-côtes russes, qui dépendent des services de sécurité, ont capturé 2 vedettes et un remorqueur de la marine ukrainienne. Les gardes-côtes russes ont fait usage de la force et tiré sur les bateaux pour les intercepter. Une 20aine de marins ukrainiens ont été faits prisonniers, dont plusieurs ont été blessés. Kiev demande leur libération et de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient aujourd'hui une réunion d'urgence réclamée par l'Ukraine et la Russie sur cet incident sans précédent autour de la mer d'Azov, une petite mer intérieure de la mer Noire que se partagent la Russie et l'Ukraine.
Et puis les autorités turques ont fouillé ce lundi la villa située au sud d'Istanbul d'un Saoudien soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Jamal Khashoggi presque deux mois après sa mort. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et on retrouve Nanit Talani pour nous présenter la Minute Éco.
Le gouvernement burkinabé et le Fonds international de développement agricole lancent le projet d'appui à la promotion des filières agricoles pour un coût global de 72 millions de dollars. L'initiative cible quatre filières que sont le riz, le maraîchage, le sésame et le niébé. Elle vise à accroître la productivité des petits exploitants agricoles et contribuer à une amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que des revenus des populations des régions de la boucle de Mouhoun, des cascades et des hauts bassins. Environ 57 000 ménages devraient en bénéficier. Le Niger inaugure sa première centrale solaire d'une capacité de 7 MW. Construite près de la localité de Malbaza, dans le centre du pays, la centrale a coûté 27,7 millions de dollars et sa production permettra d'alimenter environ 30 000 ménages dans les départements de Madawa, Malbaza et Koni. C'est dans le cadre d'un projet de mise en place d'ici à 2021 de centrales solaires d'une capacité totale de 100 MW. Terminons avec la Banque africaine de développement qui a accordé un prêt de 322,35 millions de dollars pour le projet routier Rumonge-Gitaza et Kabingo-Kasulu-Manyovu reliant le Burundi à la Tanzanie. Ce projet vise à renforcer l'intégration régionale et le commerce dans la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment entre les deux pays suscités. Cela implique aussi la construction d'un poste frontalier à guichet unique à la frontière entre le Burundi et la Tanzanie.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Vita Club a pris haut dès la finale aller de la Coupe CAF.
Oui, le club congolais a sombré 3-0 au Maroc hier face au Raja Casablanca. En 20 minutes, l'AS Vita Club a totalement coulé. C'est Raimi qui a donné le ton en ouvrant le score à la 47e minute après une talonnade astucieuse de Ben Alib. Le même Raimi a signé un doublé en marquant un deuxième but à l'heure de jeu avant que Ben Alib ne vienne marquer le troisième but du Raja à la 66e minute sur pénalty. L'entraîneur de l'AS Vita Club l'a reconnu, il n'y a pas du tout eu photo entre les deux formations, Florent Ibengué.
On a été battu dans tous les duels, on a reculé alors qu'il fallait être beaucoup plus haut et plus conquérant. On a laissé jouer cette équipe du Raja et du coup, fatalement, on a pris les buts qu'il fallait prendre. Il fallait redoubler d'efforts pour laisser moins d'espace. Il y avait moyen de faire autre chose que perdre 3-0 ici.
L'Afrique n'a plus de représentants au mondial féminin des moins de 17 ans.
Et oui, qualifié pour les quarts de finale et dernier représentant du continent, le Ghana s'est arrêté là hier. Les Black Maidens ont été éliminés par le Mexique lors des séances de tirs au but, remportées par leurs adversaires 4-2.
En Europe, Guardiola a prévenu Mahrez.
Mahrez doit bien jouer car Sterling est là et vice-versa, a déclaré l'entraîneur de Manchester City après la victoire des Citizens 4-0 sur le terrain de West Ham en championnat samedi dernier. Souvent titulaire, l'Algérien Riyad Mahrez n'est entré qu'à la 73e minute à la place de Raheem Sterling. Les Citizens affrontent demain l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.
Keita Baldé, lui, est serein avant le déplacement de l'Inter chez Tottenham.
Nous avons une équipe qui peut aller où nous voulons si nous le voulons tous ensemble. Nous y allons la tête haute, fier de nous, a lancé l'attaquant sénégalais au micro d'Inter TV. Auteur d'un doublé avec l'Inter Milan ce week-end en Serie A, Keita Baldé et son club se rendent en Angleterre ce mercredi pour affronter Tottenham à l'occasion de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions.
Omar Daff, nommé nouvel entraîneur de Sochaux.
Bonne nouvelle donc, l'ancien international sénégalais, jusque-là coach de l'équipe réserve, a été officiellement nommé à la tête de l'équipe première après le limogeage de José Manuel Ayra pour insuffisance de résultats. Omar Daff aura donc la lourde mission d'assurer le maintien des Lyonceaux en Ligue 2. Le club est actuellement 18e de la Ligue 2 avec seulement 14 points. Omar Daff a été ancien joueur de Sochaux, club dans lequel il a joué de 1997 à 2009, puis entre 2012 et 2013.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. On démarre par la visite officielle en Israël du président tchadien Idriss Déby Itno. Une visite qualifiée d'historique puisque c'est la première fois qu'un président tchadien se rend en Israël depuis plus de 40 ans. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1972. Comment apprécie-t-on au Tchad cette visite du président en Israël? Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kolmajingar.
Bien que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 46 ans, Israël a été toujours au cœur du système sécuritaire du pouvoir de N'Djamena. Le régime tchadien a régulièrement sollicité le soutien israélien en matière de renseignement, notamment lorsque le fauteuil présidentiel est menacé. Aujourd'hui encore, les acteurs politiques assimilent cette visite à la situation sécuritaire qui prévaut au nord du pays. Pour Dr Succès Masra, président du mouvement Les Transformateurs, il est temps que le langage de la guerre fasse place à celui du développement en prenant l'exemple d'Israël.
Israël, l'essentiel, c'est du désert. Mais ils ont dompté le désert. Ils ont fait du désert une opportunité. Et donc, si c'est pour aller chercher des armes, pour mater une partie de son propre peuple, je pense que ça ne vaut pas la peine. Parce que cette visite a lieu au moment où nos compatriotes qui sont dans le Grand Bété, le nord de notre pays, qui sont sous le coup des bombardements de tous bords. De ce qui sort des premiers éléments de discussion entre M. Déby et M. Netanyahu, eh bien, les questions de développement sont occultées. Alors que dans un pays comme le nôtre, qui a une grande partie de sa superficie qui est désertique, on aurait pu s'inspirer de l'Israël sur ces questions-là.
L'ethnologue et enseignant chercheur Evariste Ngarlem-Toldé estime lui aussi que la visite du président Déby en Israël a un agenda caché.
Le Tchad serait en train de vivre une situation qui a poussé donc son chef d'État à chercher un nouvel positionnement parce que qui dit Israël dit renseignement et armement. Par cette visite, le chef de l'État tchadien a choisi son camp. Il attendait mieux des pays arabes. Il se rend compte que de plus en plus, c'est comme si c'est les pays arabes qui soutiennent ceux qui le combattent. Et je crois que les relations entre le Tchad et les pays arabes connaîtront dans les jours à venir une situation qui ne serait pas comme les années passées.
Pour l'ambassadeur de la paix de la francophonie et des Nations Unies, Abdrahman Diasnabaï, la visite du chef de l'État en Israël rentre dans sa compétence dévolue par la constitution tchadienne.
Dans le cadre de la sécurité, il y a une coopération militaire, mais ça ne veut pas dire que Israël viendra intervenir ici. Moi, je pense qu'il ne faut pas donner beaucoup d'importance à ce qui se passe au nord. C'est vrai, c'est une préoccupation pour le Tchad, mais les gens qui sont au Tibet, eux-mêmes, ils disent qu'ils veulent protéger leur zone. Là où il y a de l'or, on ne peut pas aggraver ce qu'on souhaite. C'est qu'il faut passer par le dialogue pour trouver une solution à la paix.
Le président tchadien Idriss Déby Itno soutient que sa présence sur le sol hébreu traduit la volonté des dirigeants des deux pays de s'engager dans une nouvelle ère pour le rétablissement de la coopération diplomatique. Mais selon certaines opinions, ce rapprochement ne devrait pas déboucher dans l'immédiat sur une reprise des relations diplomatiques, mais plutôt un renforcement de la coopération sécuritaire pour la lutte contre le terrorisme. André Kodmajingar, maintenant, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Nouvel enlèvement de personnes par Boko Haram dans la région de Diffa au Niger. 15 jeunes filles ont été prises en otage dans la nuit du vendredi à samedi dernier près de Toumour, un village dans lequel des éléments de Boko Haram avaient tué la veille 8 travailleurs d'une société française de forage. Cette situation irrite les élus de la région et les associations nationales de défense des droits des enfants. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Très remontés, les députés de la région de Diffa, tous bords politiques confondus, ont lancé un cri de cœur au gouvernement. Lamido Moumouni Harouna est leur porte-parole.
Si on ne prend pas garde, d'autres événements peuvent survenir. Et si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Nous demandons au gouvernement de prendre instamment des mesures pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. De prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la zone de Toumour et ses environs en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire dans cette zone afin que les populations ne puissent pas faire un autre mouvement. Et nous demandons au gouvernement de faire diligence pour écouter le cri de cœur non seulement des députés de la région de Diffa, mais aussi les populations de la région de Diffa et en particulier la commune de Toumour qui vit des moments extrêmement difficiles.
La coalition nigérienne de défense des droits des enfants demande aux députés d'aller au-delà et appelle à une mobilisation générale en faveur des enfants. Sidikou Moussa, président de CONID Niger.
Je crois qu'il y a à peine 112 heures, la localité de Toumour a été quand même attaquée, où des concitoyens ont été tués. Je ne comprends pas qu'en l'espace de 72 heures, on puisse également enlever 15, voire 16 jeunes filles dans la même zone. J'en appelle de vive voix encore aux députés pour que, au-delà peut-être de la déclaration qui a été faite, que les ministres qui sont concernés puissent faire l'objet d'interpellations devant le Parlement et puissent s'expliquer. Je pense que l'heure est grave. Et c'est l'occasion en tout cas d'appeler la jeunesse, d'appeler en tout cas les parents à se réveiller, à ce que nous demandons à l'État des comptes. Comme nous sommes déjà dans les 16 jours d'activisme, qu'il y ait vraiment une marche citoyenne pour demander des comptes à nos gouvernants par rapport effectivement à la sécurité dans la région de Diffa, mais un peu partout également dans la région par exemple de Tillabéri, mais surtout faire en sorte que les enfants ne soient plus victimes de ce genre d'abus.
Au lendemain de cet enlèvement, l'on apprend que sept ex-combattants de la secte Boko Haram, hébergés dans un centre de déradicalisation à 180 km de Diffa, se sont évadés au cours d'une opération de distribution de kits alimentaires. Selon les dernières informations, les quatre ont été repris alors que les trois autres sont toujours en fuite. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République du Congo, les populations se posent des questions sur la suite des missions du Fonds monétaire international, car jusque-là, le pays n'arrive pas à conclure un accord avec le FMI. Elle reste partagée entre déception et espoir, car le Congo renoue avec la croissance économique. Arsène Séverin.
Le FMI est à sa quatrième visite à Brazzaville depuis septembre 2017. À chaque mission, les populations se font elles-mêmes l'écho de ces rencontres.
On se demande pourquoi on ne se confie pas réellement au FMI. Est-ce qu'on protège ces gestionnaires qui ont fait preuve d'une gestion scabreuse? On ne comprend pas. Mais dans les rues, quand on cause, en tout cas, il n'y a pas trop de lueur d'espoir.
Dans les régies financières, les missions du FMI perturbent le fonctionnement normal de l'administration, comme le témoigne ici un directeur des affaires administratives et financières.
Fort malheureusement, sa présence à Brazzaville permet plutôt de constater que tout se bloque. Plus de paiement de trésor, plus de virement de salaire. Et là, à ce moment, on se dit, est-ce qu'ils viennent pour nous aider ou ils viennent réellement pour bloquer le pays? Les administrations publiques ont du mal à se faire payer.
Donc l'argent ne circule
pas. Mais l'argent ne circule pas. Même qui a émis un engagement au niveau du budget arrive à se faire payer le plus tôt que possible au niveau du trésor.
Au niveau des fins limiers de la finance congolaise, les analyses sur ces missions du FMI divergent. Clément Mierassa, ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donne son point de vue.
Est-ce que ceux qui ont plongé le pays dans cette situation sont capables d'apporter les solutions de sortie à cette crise? Et puis cette incapacité à sortir du pétrole et qu'on s'y accroche, si les effets sont comme le chef de la délégation du Fonds monétaire l'a dit, que c'est lié à la remontée des cours du prix du baril du pétrole, ça veut dire que notre situation, elle est très très fragile.
L'avis de l'analyste économique Alphonse Ndongo montre que malgré l'absence d'un accord d'aide avec le FMI, le Congo a fait plusieurs efforts.
Je crois qu'il est tout à fait normal que les autorités congolaises ne sont plus dans la même situation qu'il y a 2 ans pour essayer donc maintenant d'actualiser la position, les indicateurs économiques du Congo. Et quand vous regardez l'actuel budget, vous avez espoir parce qu'on renoue avec la croissance. En 2019, on nous annonce quand même un taux de croissance qui est au-delà de 3%. C'est déjà important. Je vous apprends qu'en 2016, le taux de croissance du Congo était négatif. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, le FMI qui vient traiter avec nous tienne compte maintenant de cette nouvelle donnée. On ne sera plus quand même dans une position où on doit ingurgiter la potion amère que le FMI aurait dû nous faire ingurgiter il y a 2 ans.
Le Congo court toujours après un accord avec le FMI et son dossier n'est pas dans l'agenda du conseil d'administration de ce mois de décembre. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La Sénégalaise Sini Samba, 26 ans, ingénieure en agroalimentaire, a cofondé le Lionceau, une entreprise spécialisée dans l'alimentation pour bébés. Elle propose une alternative locale qui permet, selon elle, d'améliorer l'état de santé nutritionnelle des enfants tout en contribuant au tissu économique du pays et d'aider les producteurs du pays. Des propos recueillis par Aïssa Girondin.
Au Sénégal, 19% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et les parents manquent cruellement d'informations autour de la nutrition infantile. Aujourd'hui, sur le marché des purées pour bébés au Sénégal, il n'y a que des produits importés. C'est pour ça que je fais le choix de rentrer au Sénégal pour créer cette entreprise.
Est-ce que vous pensez toucher un plus grand marché sur le continent hormis le Sénégal ?
Oui, complètement, parce que si on regarde, par exemple, aujourd'hui, les autres pays en Afrique de l'Ouest, ce sont les mêmes problématiques. Beaucoup de, un fort taux de malnutrition, beaucoup de produits importés et beaucoup de pertes agricoles. Nous ambitionnons de répliquer notre modèle dans ces pays. Aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment important pour nous de valoriser nos ressources locales, qui sont vraiment des trésors du point de vue nutritionnel, et de les mettre au profit des enfants du continent.
Comment vous vous différenciez par rapport à la concurrence ?
Dans toutes nos recettes, on n'utilise que des matières premières locales à haute valeur nutritive, comme le fruit du baobab, le fognon ou encore le mil. En plus de cela, on a vraiment construit cette communauté avec les mamans et en essayant d'être au plus proche de la clientèle. Donc on a des parents qui nous appellent, qui nous demandent des conseils à mon bébé, ne mange pas, qu'est-ce que je peux faire, quels légumes niveau commencer leur diversification alimentaire.
Est-ce que ces mamans sont donc prêtes à payer plus cher pour soutenir votre produit ?
Au Sénégal, par exemple, les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit, ils commencent à prendre conscience par rapport au contenu local. Mais après, il faut avouer que le prix reste quand même un facteur déterminant dans l'acte d'achat. Mais ils font attention surtout à la qualité et à l'innovation des produits. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment à nous, transformateurs, de leur proposer des produits qui répondent vraiment à des standards internationaux.
Quel a été l'un des obstacles auxquels vous avez été confrontés ?
C'est surtout l'accessibilité aux matières premières, donc l'approvisionnement. Du côté des producteurs, il y a beaucoup de pertes agricoles. Donc, par exemple, 50% de la production de mangue est perdue au champ, parce qu'ils n'arrivent pas à les acheminer en ville et il n'y a pas beaucoup de transformateurs locaux. Si on regarde au niveau infrastructure routière, c'est très compliqué de pouvoir accéder dans certaines zones. Cela engendre donc les pertes au champ parce que les producteurs n'arrivent pas à acheminer leurs produits en ville et les transformateurs n'ont pas encore les moyens ni les capacités d'aller chercher cette matière première dans les régions.
L'ingénieur en agroalimentaire Sini Samba, jointe à Dakar.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, présentation Abdourahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM
Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.